Quatre étapes jalonnent l'effort des chimistes sur la route des hormones. C'est la chimie d'extraction qui a permis d'isoler les principes actifs des glandes à sécrétion interne. Lorsqu'on traite par l'alcool une certaine quantité de tissu testiculaire, par exemple, prélevé aux abattoirs et réduit à l'état de pulpe, le solvant extrait l'hormone du tissu. Celle-ci n'est pas volatile. On peut la concentrer par évaporation de l'alcool. On la tient donc. Il s'agit bien du principe actif recherché. En voici la preuve. Injectée à un chaperon, elle détermine en quelques jours l'hypertrophie de sa crête. Il reste à obtenir l'hormone sous sa forme la plus pure possible. Le chimiste s'y emploie en usant de solvants appropriés et en éliminant progressivement les substances inactives qui accompagnent l'hormone. On mesure les difficultés qu'il a fallu surmonter si l'on songe à la très faible teneur en principe actif des glandes endocrines. On ne retrouve qu'un gramme d'adrénaline par kilo de médulo-surrénale, 20 mg de désoxycorticostérone par kilo de cortico-surrénale, 240 mg de thyroxine par kilo de thyroïde, 120 mg d'insuline par kilo de pancréas, 1/10 mg de testostérone par kilo de glande génitale mâle, 5 mg de progestérone et 0,3 mg d'estradiol par kilo d'ovaire. Songez aussi à la masse de matière première qu'il a fallu traiter pour isoler les premières hormones purifiées. En 1931, 700 tonnes d'urine de jument gravide furent traitées par Girard et Sandulesco pour extraire 1 kg de folliculine. En 1934, 50 000 truies fournirent à Boutenante 600 kg d'ovaires, d'où furent retirés 12 mg de progestérone cristallisé. 15 tonnes d'urine d'homme permirent au même chimiste d'isoler en 1931 15 mg d'une hormone sexuelle mâle, l'androstérone. Dans le cas de la thyroïde, des surrénales, de l'ovaire, de la glande génitale mâle, l'extraction a livré des substances cristallisées douées d'une extraordinaire activité. Ainsi, 1/10 millième de milligramme d'estradiol suffit à déclencher la réaction des récepteurs chez la souris de laboratoire. Une autre propriété des produits obtenus est bien digne de remarque. Les hormones cristallisées sont actives chez tous les vertébrés. C'est la même thyroxine qui agit chez le saumon, le serpent, la grenouille, le canard, le lapin ou l'homme. Quelle puissante preuve de l'unité fondamentale du monde vivant. La deuxième étape de l'effort des chimistes fut la détermination de la formule du produit stable auquel leur extraction avait abouti. Citons rapidement leurs résultats. On peut classer, selon leur composition chimique, les hormones connues jusqu'ici en trois catégories. Premièrement, combinaison simple contenant de l'azote, adrénaline, thyroxine. Deuxièmement, stéroïdes, formule du même type que celle du cholestérol, hormones sexuelles et cortico-surrénaliennes. Troisièmement, albuminoïdes, insuline, hormones hypophysaires et parathyroïdiennes. Dans une troisième étape, les chimistes ont tenté de faire la synthèse des produits dont ils venaient de déterminer la formule. Quelle masse de matière première il faudrait utiliser si l'on devait extraire les hormones à partir des glandes endocrines? L'extraction d'un kilo d'estradiol nécessiterait 15 à 20 milliards de pores, celle d'un kilo de progestérone, 10 à 13 millions de pores, d'un kilo de thyroxine, 700 000 moutons, d'un kilo de testostérone, 12 millions de taureaux. Grâce au progrès de la chimie, on peut aujourd'hui, à partir d'éléments simples, carbone, hydrogène, oxygène, azote, iode, construire la même hormone que celle élaborée par la cellule au sein de la matière vivante. L'adrénaline fut synthétisée en 1905, la thyroxine en 1927, puis les hormones stéroïdes des glandes sexuelles et quelques-unes de celles sécrétées par la cortico-surrénale. La synthèse des hormones protéiques hypophysaires, de l'insuline, de l'hormone parathyroïdienne reste encore au-dessus des ressources de la chimie. Mais voici que dans une quatrième étape, les chimistes fabriquent de toutes pièces des substances entièrement nouvelles, douées d'action hormonale, mais qui n'existent pas dans la nature. Ce sont des hormones artificielles. L'exemple le plus remarquable est celui des estrogènes artificiels. Des chimistes éminents, Dodds en Angleterre, Michaer en Suisse, et il y a à peine 2 ans, Auro et Jacques en France, ont réalisé des produits qui n'ont pas la structure de la folliculine, hormone féminine de l'ovaire, mais qui en possèdent néanmoins toutes les propriétés biologiques. À poids égal, ces substances nouvelles seraient beaucoup plus puissantes que l'hormone naturelle. En outre, elles conservent toute leur efficacité quand on les administre par la voie digestive, tandis que par cette voie, le principe ovarien est beaucoup moins actif que par la voie sous-cutanée. Enfin, la préparation industrielle de ces estrogènes artificiels est beaucoup moins onéreuse que celle du produit naturel. On est confondu devant l'importance de ces conquêtes dues à l'ingéniosité et au labeur de l'homme. Il y a 75 ans à peine, Claude Bernard, dans des pages célèbres sur la définition de la vie, réclamait pour le chimiste le droit d'analyser la matière vivante. Il s'attaquait à la grande tradition philosophique qui faisait de la vie un phénomène tout à fait irréductible aux lois physico-chimiques du monde inanimé, tradition qui trouvait sa source chez Pythagore, Platon, Aristote, Hippocrate, acceptée par les philosophes et les savants mystiques du Moyen-Âge, Paracelse, Van Helmont, renforcée au XVIIIe siècle par le célèbre médecin Stahl et qui faisait dire à Bichat en plein XIXe siècle, comme les sciences physiques et chimiques ont été perfectionnées avant les physiologiques, on a cru éclaircir les unes en y associant les autres. On les a embrouillées. C'était inévitable, car appliquer les sciences physiques à la physiologie, c'est expliquer par les lois des corps inertes les phénomènes des corps vivants. Et Bichat poursuit, or, voilà un principe faux, donc toutes les conséquences doivent être marquées au même coin. Les grandes découvertes de la chimie moderne font justice des théories vitalistes. Elles sanctionnent l'éclatante affirmation de Claude Bernard. Les affirmations du vitalisme qui viennent encore retentir à nos oreilles comme des échos lointains de doctrines surannées ne sauraient plus nous arrêter. Il n'y a au monde qu'une seule mécanique, une seule physique, une seule chimie commune à tous les êtres de la nature. Et Claude Bernard de conclure, il n'y a donc pas deux ordres de science. Le domaine des hormones ne cesse de s'étendre. Les hormones contrôlent la croissance des animaux et des végétaux, la métamorphose du têtard en grenouille, la mue de l'insecte. Elles seraient les intermédiaires chimiques entre le caractère héréditaire porté par le chromosome et la manifestation de ce caractère. Elles interviennent dans la fécondation, dans la construction de la forme. En médecine, les hormones jouent un rôle capital. Glandes en hyperfonctionnement ou en hypofonctionnement sont à l'origine de maladies bien individualisées. En thérapeutique, les succès sont immenses. Insuline dans le diabète, cortine dans la maladie d'Addison, thyroxine dans le myxédème, folliculine dans les troubles de la ménopause. On aperçoit déjà quelques liens entre hormones et cancer. Enfin, il n'est pas jusqu'au monde de l'intelligence et de l'instinct qui ne voit s'estomper ses frontières avec le domaine hormonal. Citons cette phrase du professeur Courrier. Il est loin de ma pensée de considérer l'homme comme le simple jouet de quelques molécules chimiques. Mais il n'en est pas moins vrai que la vie psychique peut être grandement influencée par les hormones. Et les traités de psychologie récents en tiennent un large compte. Il est des faits précis de crétinisme ou de torpeur, d'asthénie ou de dépression, d'agitation ou d'impulsivité, pour lesquels l'origine hormonale ne laisse aucun doute. On peut voir intervenir la thyroïde, la surrénale, les gonades ou l'hypophyse. Des statistiques américaines montrent que dans certaines maisons de correction, 20% des enfants présentent des troubles endocriniens. Ainsi se pose le problème délicat de la responsabilité humaine, conclut le professeur Courrier. Il est immense, le domaine des hormones, du monde végétal au monde animal, des insectes aux vertébrés supérieurs, de la physiologie à la pathologie, de la clinique à la thérapeutique, de la psychologie au problème de la responsabilité humaine. Il faudra bien nous limiter. Dans nos prochaines causeries, nous entreprendrons, le docteur François Morel et moi, par l'étude de quelques glandes endocrines, l'illustration des notions générales évoquées dans cette introduction.